Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait ?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio. La radio.
Ici, avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission du 9 février, émission hebdomadaire de cinéma. Bonjour Martin.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Encore aujourd'hui un sommaire copieux, mais je suis content que tu sois là, puisque la semaine dernière, eh bien, tu étais absent.
Voilà, je me suis retapé et je suis de retour donc, pour vous parler de plein de choses cette semaine. Alors, je vous parlerai de Tron, voilà, l'événement surmédiatisé de ce mercredi, sorti de Tron 2, mais je parlerai surtout du premier. Je parlerai également de Tambien la Lluvia de Issyar Bolein, Même la pluie, un film qui est toujours programmé, qui est sorti il y a un petit moment maintenant. Je vous diffuserai aussi une interview de Jacques Choucroune qui nous parlera de l'événement qui a démarré depuis un bon moment maintenant, le 27 janvier. C'est le regard sur le cinéma algérien, ce sera en toute fin d'émission.
Et moi je parlerai de Black Swan, le dernier film de Darren Aronofsky qui sort aujourd'hui, tout comme Trône. Mais avant tout cela, eh bien, on va recevoir par téléphone Serge Fendrikov pour eh bien, l'ouverture du cinéma Nestor Burma.
Alors Serge Fendrikov, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Cinérama. Voilà, le cinéma Nestor Burma ouvre à l'emplacement de l'ancien Diagonale Celle-Neuve qui est fermé depuis 4 ans maintenant. Quel va être le statut de cette salle, la particularité un peu de sa programmation par rapport à d'autres salles comme le Centre Rabelais ou les salles de la médiathèque Fellini ?
Alors en fait, ça va être une vraie salle de cinéma, entre guillemets, puisque le Centre Rabelais n'est pas, c'est une salle qui accueille des projections, mais ce n'est pas professionnellement une salle de cinéma comme le Diagonal ou le Royal ou l'Utopia Campus. Donc ça va être une vraie salle de cinéma, et vraiment, ce qu'on va essayer de faire, c'est de la positionner sur une notion de cinéma de quartier.
Vous allez suivre les sorties nationales, par exemple ?
Ce n'est pas mon objectif prioritaire. D'une part, parce qu'il y a déjà énormément d'écrans sur Montpellier, et du coup, rajouter un écran national, ça n'aurait presque, sur la plupart des films, aucun sens, y compris pour les autres salles, y compris pour les spectateurs, ou tout ça. Donc je vais en avoir, par exemple, là, dans le premier programme, on va avoir Winter Vacation en sortie nationale, qui est un film, le 23 février, qui est un film chinois qui a reçu le Léopard d'Or, mais on l'a parce que le film est en sortie numérique, et que le cinéma Nestor Burma est équipé en numérique, alors que le Diagonal n'allait pas encore, Utopia non plus. C'est vrai que s'ils avaient été équipés en numérique, ce film aurait été prioritairement chez eux, c'est normal.
Alors ben, si on peut parler de la programmation à venir, déjà on peut parler de ce qui va se passer ce week-end, hein, parce qu'il va y avoir effectivement une avant-première, c'est le film Chez Gino de Samuel Benchetrit, avec notamment la présence de José Garcia, acteur, et aussi parrain du festival du cinéma Nestor Burma, hein, c'est ça.
Ouais, on est très très heureux que José Garcia ait accepté ce parrainage. Naturellement, enfin, je sais pas si vous partagez cet avis, mais moi, je trouve que c'est un acteur plutôt talentueux dans divers registres, qui touche à la fois et le populaire, mais aussi dans des rôles très plus dramatiques. Enfin voilà, enfin, on est un peu dans le cliché, mais en tout cas, il a cette palette là. Il tourne à la fois avec voilà des blockbusters, mais à la fois aussi du cinéma d'auteur. Donc du coup, il représente vraiment le parrain idéal pour une salle de quartier qui a vocation à la fois à passer du cinéma d'auteur, du cinéma pointu, et aussi un cinéma populaire de qualité. Et donc là, la chance finalement, dans le bon timing, c'est que la sortie de chez Gino, dont on va présenter l'avant-première pour les Celles Neuvois, chez Gino a été tournée partiellement à Montpellier. Donc du coup, il y avait, je dirais, plusieurs atouts, attraits pour que et chez Gino soit projeté, que José Garcia soit le parrain. Et José Garcia adore Montpellier, quoi. Donc c'est vrai que ça a beaucoup aidé aussi.
Donc chez Gino ce samedi. Ensuite, il y aura eh bien, des projections de 4 courts-métrages ayant pour thème le cinéma. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Est-ce que vous pouvez annoncer une partie du programme, hein, pour ce mois de février ?
Oui, alors... l'intérêt des courts-métrages, voilà, c'était de se dire qu'on va mettre tout le monde à la même enseigne et que du coup, tous les Montpelliérains qui vont découvrir la salle ce week-end vont voir la même chose. Bon, ça a un peu été dynamité avec l'arrivée de José Garcia, parce que du coup, on n'a pas pu faire 15 000 projections en avant-première, naturellement, du film. Mais voilà, l'idée, c'était que sur le thème du cinéma, on fédère tous les spectateurs. Après, voilà, un des enjeux du cinéma, c'est d'être naturellement un cinéma axé sur le jeune public. Donc, il y aura un axe très très, très fort, une programmation très forte, continue sur toutes les semaines, avec des ciné-goûtés, des animations, enfin voilà, ce que font par ailleurs d'autres cinémas. Hein. Là n'est pas le souci. Et des soirées plutôt, là encore, on va dire festives. Voilà, par exemple, le 24 février, on fait une soirée autour du film La Forêt d'Émeraude, de John Borman. Du coup, avec l'association Cosisola qui organise la soirée, on est allé rencontrer le week-end dernier à Nîmes John Borman. On a fait une interview de lui, vidéo, qui sera projetée en avant-propos du film. Et dans le cadre de cette soirée, il y aura dégustation de tapas, il y aura des musiciens brésiliens. Enfin voilà, il y aura toute une ambiance autour de cette projection.
En tout cas, on aura l'occasion de reparler de cette projection, puisqu'on va aussi diffuser une partie de cette interview de John Borman, et on parlera plus particulièrement de ce film qui sera projeté dans votre cinéma, parce que c'est le vôtre, vous en êtes le directeur au moins pour 3 ans.
Alors, c'est le mien en tant que directeur, mais oui, c'est celui de la ville, c'est le cinéma municipal. Hein.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on vous remercie.
Voilà, on rappelle inauguration officielle de la salle Nestor Burma le 12 février 2011, puis week-end portes ouvertes ce week-end. Merci beaucoup Serge Fenrikov, et puis
merci
à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir.
Et bien on passe tout de suite maintenant au gros, gros morceau de l'émission.
Alors voilà, on va passer des cinémas municipaux à des cinémas un peu différents. Il y a 2 semaines, nous nous sommes rendus, Vincent et moi, au Mac Burger Complexe Gaumont Odysseum pour être les premiers à voir Tron 2, l'héritage, suite attendue et survendue de Tron, premier du nom, sorti il y a plus de 25 ans.
Fichier vide, programme Tron indisponible. Il faut que le fichier principal libère Tron. J'ai priorité d'accès au groupe 7. Votre accès vous est interdit, vous présentez à Dillinger?
Quoi? Alan? Tu peux me filer un peu de popcorn?
Prends ce que tu veux.
Après 2 heures de plongée en Disney Digital 3D, dans un feu d'artifice d'effets spéciaux numériques, je ne me suis pas senti bien. Alors peut-être que c'était les 3 litres de popcorn au beurre engloutis pendant la séance, ou la superposition de 2 paires de lunettes sur mon nez, pourtant robustes pendant 120 minutes, ou encore la puissance et la sagesse du message délivré dans ce film. Toujours est-il qu'une fois rentré chez moi, je me suis installé devant mon ordinateur et j'ai attrapé un virus, ou un cheval de Troie, je ne sais pas. Ce qui fait que la semaine dernière, à l'heure de composer quelques pages pour Cinérama, j'étais à moitié liquéfié sur mon clavier, n'arrivant pas à accéder à ma mémoire vive et rencontrant de violentes douleurs du côté de mon macro-processeur. Bref, après une petite défragmentation, je suis de retour, prêt à plonger avec vous dans les circuits imprimés de l'univers de Tron. En 1982, alors que j'ouvrais à peine mes grands yeux curieux sur le monde, sortait sur les écrans un film précurseur, Tron, maquillé en gros film d'aventure high-tech, produit par les studios Disney. Ce premier long métrage de Steven Lisberger révolutionnait le monde du cinéma d'animation. Pour la première fois, des séquences entières étaient animées par ordinateur. Mais il y a 25 ans, créer une image de synthèse, c'était plutôt compliqué, et le défi de Tron, c'était d'en créer des milliers. Alors pour donner une idée des capacités informatiques de l'époque, à ceux qui s'en rappellent encore, l'ordinateur personnel le plus populaire du moment, le Commodore 64, possédait un processeur cadencé à 1 MHz. Aujourd'hui, le moindre smartphone tourne en moyenne avec des processeurs cadencés à 500 MHz. Alors l'équipe du film a bien sûr eu accès à des machines plus puissantes, mais toute proportion gardée, nous étions encore à l'âge de pierre des images de synthèse. Alors l'histoire de Tron, c'est celle de Kevin Flynn, un programmeur de jeux vidéo qui s'est fait voler ses créations par un homme d'affaires peu scrupuleux. Pour se venger et faire éclater la vérité, Flynn décide de pénétrer en secret dans la base de données de son rival et de dérober la preuve du forfait. Mais malheureusement, la base de données est protégée par une intelligence artificielle, le Master Control Program ou MCP, qui désintègre Flynn avec un laser et le propulse dans le monde informatique. Là, Flynn va devoir jouer à des jeux de gladiateurs du futur pour sauver sa vie et regagner son corps. Alors le scénario s'inspire du monopole grandissant d'IBM dans les années 80 et de la crainte que cette hégémonie faisait planer. Les programmeurs de l'époque redoutaient l'instauration d'une tyrannie par les grandes corporations sur le monde de l'informatique, et ce sujet, assaisonné d'une pincée d'intelligence artificielle à la sauce cyberpunk, même si le film n'a pas grand-chose de punk, a donné naissance au monde de Tron.
C'est ma faute, je vous ai programmé trop d'ambition.
Je comptais m'attaquer au Pentagone sous Witten.
Au Pentagone ?
Ça ne devrait pas être plus difficile qu'une autre grande firme. Mais voilà le résultat quand j'utilise du matériel humain.
Je vous en prie, un peu de mesure, c'est moi qui vous ai écrit.
Je suis devenu 2415 fois plus brillant depuis.
Que voulez-vous faire du Pentagone ?
Ce que je veux faire du Kremlin. Les consortiums m'ennuient. Avec les données auxquelles j'accède, je dirige tout 900 à 1200 fois mieux qu'un simple être humain.
Si vous vous croyez supérieur à nous...
Je pourrais très bien déterrer le fichier Flynn et l'afficher sur l'écran d'une agence de presse.
Vous feriez ça ?
Alors si le scénario de Tron peut sembler manquer d'ambition, le projet technique par contre en a à revendre. Réussir à donner vie à un monde numérique crédible dans lequel les acteurs pouvaient évoluer, animer les visions futuristes de Sid Mead, Mebius ou Peter Lloyd, trois artistes visionnaires chargés de concevoir cet univers, mélanger images réelles, animation et images de synthèse tout en essayant de garder une cohérence d'ensemble, voilà le genre de défi que l'équipe de Tron a dû mener à bien. Alors si les séquences dans le monde réel n'ont pas posé de problème particulier, les scènes qui font intervenir des personnages à l'intérieur de l'ordinateur ont été un peu plus compliquées à mettre en place. Dans la grande majorité des plans, les comédiens devaient jouer sur un plateau vide, entièrement noir, avec quelques éléments de décor géométrique eux aussi peints en noir, et le tout sanglé dans des costumes blancs pas vraiment saillants. Une fois ces images enregistrées, chaque photogramme était ensuite photographié, puis transféré sur cellulo, donc ces grandes feuilles de plastique transparent qui servent en animation. Et une fois transférées sur cellulo, ces images étaient retouchées par des animateurs. Alors en 9 mois de post-production, près de 600 000 cellulos sont passés entre les mains des peintres et des techniciens des effets spéciaux. Au bout d'un certain temps, comme la place venait à manquer, des caravanes furent affrétées pour être remplies jusqu'à la gueule de ces milliers de cellulos. Et au final, 11 000 plans d'effets spéciaux ont été créés pour ce film, dont 900 qui comportaient des images d'êtres humains dans un environnement artificiel. Alors l'idée principale, c'était de faire ressembler les images enregistrées sur le plateau à de l'animation par ordinateur brut. Les limites de l'infographie à l'époque ont donc dicté le design général de la réalité virtuelle. Simplicité, géométrie et couleurs vives ont ainsi été les trois mamelles de la direction artistique, des décors et des costumes. Un vrai défi créatif et un choix assez unique, puisque depuis, l'infographie a surtout été utilisée pour que les images virtuelles ressemblent à la réalité, dans la recherche d'un photoréalisme toujours plus grand. Avec Tron, les animateurs ont dû inventer de nouvelles techniques pour peindre les images non plus avec de l'encre, mais avec de la lumière. Et l'exemple le plus frappant reste les bandes lumineuses des costumes finalisés qui scintillent plus ou moins en fonction des émotions des personnages. Alors pour vous donner une idée des difficultés rencontrées par l'équipe, une petite anecdote. Pour capturer un maximum de lumière et obtenir une meilleure résolution d'image lors du tournage, Tron a été tourné en grande partie en 70 mm, donc un format de pellicule qui était peu utilisé dans les années 80, qui est tombé aujourd'hui en désuétude, à de rares exceptions près. Le problème de ce format, du 70 mm, c'est qu'il ne permet qu'une profondeur de champ extrêmement réduite. Donc pour une scène où trois personnages apparaissent alignés en perspective, le point ne pouvait être fait sur les trois visages malgré leur proximité. Il fallait donc tourner trois fois la même scène en changeant la mise au point pour ensuite les mélanger et obtenir une image nette des trois images. Et le problème, c'est qu'à l'époque, le contrôle des mouvements de caméra par ordinateur, ce qu'on appelle le motion control, n'était pas encore au point, donc il n'était pas possible de refaire plusieurs fois un mouvement de caméra à l'identique. Et c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas du tout de mouvement de caméra lorsqu'on voit des comédiens dans le monde virtuel. Alors d'un autre côté, dans les scènes composées uniquement d'images de synthèse, plus de problèmes d'appareil. La caméra virtuelle, simulée par l'ordinateur, virevolte et donne à certaines séquences, comme celle de la course de moto, énormément de dynamisme.
Prépare-toi. préparer le transport à la grille des cycles lumière. Le transport est prêt.
Eh ben... Waouh.
Le chef bleu à moto bleue. Broyez ces types contre vos murs à réaction.
Bien reçu, chef bleu.
Bien reçu, chef bleu.
De hors 1 à hors 2 et à hors 3. Déployez vos brûlés d'un barrage.
La scène des motos, scène mythique de Tron, donc les lumicycles, cycles lumière, c'est une des séquences principalement composées d'images de synthèse. Et encore aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement si on accepte le parti pris esthétique dicté par l'histoire, à savoir que les décors, les accessoires, les costumes sont créés par un ordinateur des années 80, donc avec une simplicité des formes et des couleurs. Alors lors de sa sortie en salle, Tron dut faire face à Blade Runner, à E.T., et il ne remporta pas un grand succès public, contrairement aux jeux vidéo inspirés du film qui, lui, fit un carton dans les salles d'arcade. Si on se souvient de Tron aujourd'hui, c'est donc principalement grâce à l'exploit technique que le tournage et la post-production représentaient. Mais le scénario a également posé une mythologie qui a marqué suffisamment de spectateurs pour que 28 ans après, une suite soit produite et sorte sur nos écrans. Alors rapidement, que reste-t-il de ce qui faisait l'intérêt du premier opus dans Tron 2 Legacy qui sort aujourd'hui ? Bien, pas grand-chose, à part, une fois encore, le grand spectacle. Le monde créé par Steven Lisberger est énormément enrichi, mais le scénario est banal et formaté pour séduire le public le plus large possible, pour plaire aux geeks sans rebuter les ménagères. Côté technique, quelques bonnes décisions, comme celle de tourner directement en 3D, comme ce fut le cas d'Avatar, et de donner un sens à ce choix en opposant monde réel en deux dimensions et monde virtuel en 3D. Le relief est plutôt bien utilisé, sans esbroufe, avec de bonnes idées. Par contre, toujours pas de tournage ni de projection en 48 images secondes, donc toujours les mêmes problèmes d'effets stroboscopiques lors des mouvements de caméra rapide. Voilà, en 2D, 24 images secondes, ça suffit pour pas avoir cet effet de stroboscope. En 3D, c'est plus difficile parce qu'on est vraiment plongé dans le monde du film et donc on voit plus ce problème de stroboscope quand il y a des mouvements de caméra. Pour le reste, rajeunir Jeff Bridges de 30 ans, ça aurait pu être une véritable innovation si le même genre d'exploit n'avait pas déjà été accompli dans X-Men 3 en 2006 et plus récemment dans L'étrange histoire de Benjamin Button. L'effet est réussi, mais malheureusement n'est pas bien nouveau. À mon avis, le plus gros problème de Tron 2, c'est d'avoir abandonné cette idée d'austérité, de sobriété, de géométrie radicale dans la conception des décors. Dans Tron 2, le monde informatique n'est finalement plus si différent d'une autre. Il y a de la poussière, les accessoires sont nombreux et le tout baigne dans une brume translucide sortie d'on ne sait où. Bien souvent, on a donc plus l'impression d'être devant un paysage futuriste à la Daybreakers que devant un paysage informatique. C'est un peu dommage à mon avis. Enfin, quant aux amateurs de cyberpunk, préparez-vous à être une nouvelle fois déçus par l'univers de Tron. C'est quand même un univers Disney. Et le seul petit morceau de punk que vous allez trouver dans le film, c'est ça.
We'll be right back.
Voilà un extrait de la bande originale de Tron 2 Legacy, signé Daft Punk. Je peux vous dire que c'est la folie dans les studios de Divergence. On a sorti la boule à facettes, tout le monde danse. Vincent, tu l'as vu avec moi ce film oui. La semaine dernière. Est-ce que le popcorn au beurre t'est resté sur l'estomac toi aussi ou...
Oui, bah, c'est surtout un gros mal de tête. Alors là, je suis assez d'accord avec toi pour les images 3D. Alors tu l'expliques par cet effet stroboscopique. Tu as vu comme j'arrive bien à le
oui,
dire.
Oui, oui.
Mais je me suis entraîné. Fin. Et donc, voilà, beaucoup de. Un gros mal de crâne, quand même. Alors, j'ai pensé, on en a discuté après la projection, que ça venait peut-être du fait que ces images de synthèse manquent de texture. Elles sont. Enfin, voilà, c'est plus une ossature, ce monde de trône, même s'il est moins pauvre que le trône 1. Parce que tu le dis, il y a de la poussière, c'est une espèce de copie de notre monde, mais en plus numérisé, et ainsi de suite. J'avais l'impression que c'était ça qui me faisait mal, et puis toute cette... dès qu'il y a de la vitesse, alors là, c'est très très dur à suivre, hein, malgré tout.
Bah, c'est difficile, ouais, la 3D, voilà. C'est un peu les balbutiements encore de cette nouvelle technologie 3D. Premier film à être tourné intégralement en 3D, c'est Avatar, donc ça date de l'année dernière, ou il y a 2 ans. Mais c'est vraiment le début de cette technologie, c'est pas encore tout à fait au point, ouais.
Alors après l'histoire, c'est plutôt ras des pâquerettes quand même, oui, voilà. Faut bien le préciser, on y va plutôt pour le spectacle que pour ressortir avec des idées métaphysiques, voilà, hein, sur l'avenir, même le rapport aux machines, enfin tout ça est complètement absent.
Voilà, donc Tron 2 Legacy, un petit conseil quand même, si vous comptez le voir, allez le voir au cinéma en 3D, parce que sur un petit écran, ça n'aura plus aucun sens du tout.
Fin de transmission.
Et Tron, par contre, on peut dire où il est projeté. Il est projeté au Royal, au Gaumont Multiplex et puis au CGR, donc, qui sont 3 cinémas équipés en 3D. Donc ça devrait bien se passer, n'oubliez pas vos lunettes. On passe maintenant à Black Swan, film de Darren Aronofsky avec Nathalie Portman et Vincent Cassel. Alors Darren Aronofsky a sorti aujourd'hui en France son 5e long métrage et c'est plutôt réjouissant, car Darren Aronofsky fait partie de ces réalisateurs qui donnent à un sujet une vraie forme filmique qui pourrait sans doute apparaître à certains habitués au classicisme un peu clinquante par trop d'effets de cadre, d'appareils et de montage. Mais c'est justement ce qui fait la force de la filmographie de Darren Aronofsky, qui a débuté avec Pi en 98, l'histoire d'un mathématicien qui s'attaque à la formule numérique qui expliquerait la bourse. Un film âpre, en noir et blanc, avec un mal de crâne pour le personnage qui devient vite perceptible pour le spectateur. Une histoire insensée pour un film déroutant qui remporte les honneurs. Alors débarrassé du noir et du blanc et sûr de son succès, il adapte le roman Last Exit to Brooklyn d'Hubert Selby Jr. dans Requiem for a Dream. Le sujet, eh bien, c'est la drogue et la société pourrie, des gens jamais heureux qui prennent des cachetons de toutes sortes, des junkies aux téléspectateurs. Alors il frappe juste avec un montage qui montre des shoots en gros plan, un montage virtuose qui s'articule bien avec le thème musical composé par Clint Mansell et interprété par le Kronos Quartet.
Non, c'est trop contrôlé. Séduis-nous. Pas seulement le prince, mais la cour, le public, le monde entier. Allez, enchaîne les fouettes comme une araignée qui tisse sa toile. Attaque, attaque. Allez. Bon, merci d'être venu.
Désolé.
Les filles, je vous présente Lily. Elle arrive tout droit de San Francisco. C'est elle qui va remplacer Rebecca.
Salut.
Échauffe-toi.
Non, je suis prête. C'est bon. Je continue?
Non, merci, Nina. J'ai vu. Bon, Véronica, la variation du signe blanc. Allez, 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 s'il vous plaît.
Voilà, donc, c'était pas du tout le bon extrait. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc on va écouter cette fois-ci le véritable extrait, donc c'est l'extrait de Requiem for a Dream. Ready, and three.
Go!
Voilà, alors on laisse le mystère sur les images pour ceux qui n'ont pas vu hein, ce film Requiem for a Dream, mais on voit déjà que le montage sonore est plutôt bien présent. Aronofsky s'empare ensuite de l'immortalité avec The Fountain, le combat à travers les âges d'un homme pour sauver la femme qu'il aime, qui n'obtiendra pas le succès escompté. Un film métaphysique, sophistiqué, mais pas vraiment grand public, une belle œuvre romantique qui est peut-être arrivée trop tôt. Alors fini la métaphysique et bonjour la castagne en 2009 avec The Wrestler qui annonce le retour de Mickey Rourke après des années d'absence à l'écran en catcheur vieillissant. Moins d'audace dans la réalisation, dans le sujet, une histoire touchante et un catch sport spectacle à la mode. The Wrestler rafle le Lion d'Or à Venise. Alors si The Wrestler, je peux le dire celui-ci, montre la brutalité du corps, son nouveau long métrage Black Swan nous montre sa grâce en nous emmenant dans le monde de la danse classique au City Ballet de New York, en filmant non pas seulement un spectacle de danse, mais en suivant la vie d'une danseuse, son entraînement, sa condition physique et psychologique, on s'aperçoit assez vite que la grâce ne s'obtient pas sans souffrance. Mais dans tous les films d'Aronofsky, finalement, eh bien, il est question de souffrance. Là, normalement, se trouvait l'extrait que vous avez écouté tout à l'heure, donc remettez-vous dans l'ambiance de cet extrait et on passe à la suite. Alors si elle veut un rôle, on comprend qu'il faut qu'elle se libère. Alors de sa technique, de sa mère protectrice, de... Là, je suis complètement perdu. Donc, on va faire une expérience temporelle. C'est-à-dire que vous allez vous remettre dans le bain de effectivement cet extrait avec la répétition de danse et on reprend. L'extrait est fini. Bravo. Nina est ballerine au sein du prestigieux New York City Ballet, pouponnée par sa mère. On ne saura rien du père. Sa vie est vouée à la danse. Son train-train et rintant bascule lorsque le chorégraphe Thomas Leroy, un Français interprété par Vincent Cassel, que vous avez écouté dans l'extrait, décide pour la nouvelle saison du théâtre de remplacer sa danseuse étoile pour la représentation du Lac des Cygnes. Alors Nina est sur les rangs parce qu'elle interprète fort bien le cygne blanc qui exige technique, grâce et légèreté, mais ne convainc pas son chorégraphe pour le rôle du cygne noir qui exige passion et sensualité. Un rôle qui conviendrait fort bien à Lily, une danseuse décontractée, mais voilà, une seule danseuse peut-être, la danseuse étoile, les autres ne sont que des petits rats.
Depuis 4 ans que je te vois danser, je t'ai toujours vu t'acharner à réussir tous les pas à la perfection, mais pas un seul instant je t'ai vu te lâcher. Jamais. Toute cette discipline, pourquoi ?
Je veux être parfaite.
Quoi ?
Je veux être parfaite.
La perfection, c'est autre chose que la maîtrise. Il s'agit aussi de savoir s'abandonner, se surprendre soi-même pour surprendre la salle, se transcender. Il y a très peu de gens qui ont ça en eux.
Je crois que j'ai ça en moi.
Tu m'as mordu ? Non mais attends, j'y crois pas. Tu m'as mordu ?
Pardon.
Si elle veut le rôle, on comprend qu'il faut qu'elle se libère. Alors de sa technique, de sa mère protectrice, de son innocence, on n'a qu'à dire un peu de tout cela. Et puis tant qu'on y est, ne faudrait-il pas mettre hors d'état de nuire sa rivale Lily, une fille qui pourtant cherche son amitié parce que c'est son tempérament tout simplement. Alors à ce moment-là, Black Swan n'est pas une vision romantique, mais bien un thriller qui flirte avec le fantastique, des ingrédients propres à vous donner la chair de poule et à vous faire sursauter sur votre siège. Nina doit absolument trouver la passion, la sauvagerie qui est en elle. Alors casser sa carapace de jolie jeune fille, prix d'excellence, sa chambre remplie de peluches, chercher la sensualité dont on se dit qu'elle ne l'a jamais vraiment éprouvée. Aronofsky filme la danse en préservant les gros plans, en coupant certaines séquences au sécateur pour insuffler du rythme, en laissant aussi virevolter sa caméra. Il nous emmène avec son héroïne Nina à la recherche de son rôle du cygne noir qui passe fatalement par une transformation. Il nous réserve des séquences d'épouvante où Nina est tentée par son double. Le double dans le ballet classique, eh bien, c'est rien de le dire puisque on voit très bien dans le film, c'est que toutes ces filles s'entraînent durement et au final sont interchangeables. Alors, quand la mère de Nina lui dit « c'est ton tour », ça signifie qu'elle quitte la masse du corps de ballet pour accéder à l'interprétation singulière. C'est elle qu'on va maintenant remarquer, un sacré challenge, surtout quand le chorégraphe prend un malin plaisir à mettre en avant la rivale Lily, une doublure plus vraie que nature, car dans le spectacle, on prévoit toujours un interprète remplaçant. Alors Nina voit son double partout, elle est torturée par des visions fantasmatiques, d'autres qui semblent réelles, et à un moment on ne sait plus ce qu'on peut faire de la notion de réalité, une séquence étonnante peut être montrée pour vraie et démentie quelques temps après, ou simplement atténuée sans que la cohérence ne nous échappe, et donc Aronofsky réussit là une bien belle manipulation. Alors il y a le cygne blanc, le cygne noir, deux personnages qui sont deux personnalités de son interprète, Nina, qu'incarne Nathalie Portman à la perfection, si j'ose dire, et la perfection, le grand thème de ce cinquième long métrage de Darren Aronofsky, qui réalise un sans faute. Mansell à la baguette, hein, mais forcément c'est un thème inspiré du Lac des Cygnes de Tchaïkovski.
On est quand même fort dans le cinéma, on passe de Daft Punk à Tchaïkovski en quelques minutes.
Alors Black Swan est projeté, alors c'est un peu le bazar au niveau des projections, parce qu'il ne devait pas passer au Ciné Diagonal, finalement il y passe, il sort aujourd'hui aussi en version sous-titrée, donc au Ciné Diagonal, et il est annoncé aussi au Gaumont en VO sous-titré, voilà, donc ça ferait deux écrans qui le passe en VO sous-titré, ce qui arrive plutôt rarement. D'habitude, le Gaumont eh bien, se prend la VF, voilà, qui existe en plus.
Alors, on va quitter l'actualité un petit peu, passer à un film qui est sorti depuis pas mal de temps maintenant, mais qui mérite vraiment le coup d'œil, à mon avis, que j'ai vu assez récemment. Et s'il y a encore des gens qui ne l'ont pas vu, allez le voir. Je vais parler un petit peu de Même la pluie, de Issiar Bolein. Alors, tout le monde le sait, le cinéma en parle de plus en plus. La principale ressource naturelle qui risque de se faire rare dans les décennies à venir, ce n'est pas le pétrole, même si la peur de ne plus avoir d'essence à mettre dans nos grosses berlines empêche tout le monde de dormir. Non, ce qui risque de manquer de plus en plus cruellement, c'est l'eau. Alors quelques chiffres avant de parler cinéma. Sur notre planète bleue, seul 1% de l'eau est de l'eau douce. Le reste est soit de l'eau salée, soit de l'eau emprisonnée dans la glace des pôles. La résultante, c'est que la moitié de la population terrestre n'a pas accès à ce petit pourcent d'eau potable. Chaque année, 2 millions de personnes meurent de problèmes liés au manque d'eau, surtout des enfants en bas âge. Et ces constats effrayants, une prise de conscience tardive, ont débouché sur une décision historique prise par l'ONU l'année dernière. Depuis juillet 2010, l'accès à l'eau potable est reconnu comme un droit humain. Il était temps. Au cinéma, le sujet a déjà été traité plusieurs fois, alors dans des documentaires bien sûr, comme « Un monde sans eau » de Udo Maurer, « Blue Gold, World Water Wars » de Sam Bozo, ou encore dans « Flow » d'Irina Salina, diffusé sur Arte en 2008.
Autrefois, l'eau était un service public. Mais depuis 10 ans, 3 grandes compagnies européennes fournissent de l'eau dans un but lucratif dans de nombreuses régions du monde. Ces sociétés font partie des 100 premières entreprises mondiales. Elles sont très riches et se développent très rapidement. Et les pays pauvres, un peu partout dans le monde, se trouvent contraints de transférer la gestion de l'eau à des multinationales privées basées en Europe ou dans des pays éloignés.
Suez est l'un des 2 leaders mondiaux de la distribution et du traitement de l'eau.
Je travaille pour une grande société française de distribution d'eau, Vivendi Environnement.
Nous sommes présents dans plus de 100 pays.
Nous existons depuis 150 ans. Nous intervenons depuis très longtemps dans le secteur de l'eau.
Dans la fiction, le sujet commence à titiller les scénaristes. En 2008, 2 films abordaient la question de façon très différente. très différente, pardon, Sleep Dealer de Alex Rivera, dont j'avais parlé à l'époque sur Ses Ondes, qui nous projetait dans un monde futuriste et confrontait ses personnages à la privatisation de l'eau par des multinationales tentaculaires. Donc, comme souvent, le recours à l'anticipation permettait de traiter un sujet actuel en usant d'hyperbole pour le rendre plus frappant. Et ce problème de la privatisation de l'eau s'est aussi invité dans un authentique blockbuster, Quantum of Solace, dernier James Bond en date, dans lequel l'agent 007 est aux prises avec un homme d'affaires français particulièrement intéressé par l'or bleu.
Bienvenido. Todo bien?
En euros, comme vous le désiriez.
Le dollar n'est plus ce qu'il était. La guerre coûte cher. Je crains fort que la corruption de l'actuel gouvernement ne puisse plus être tolérée. Presidente?
Et moi?
Dès que vous aurez signé la cession de mon terrain.
Llévamela a mi cuarto, por favor. Mon premier acte officiel.
Et là, si vous voulez bien.
Mais c'est quoi ça?
À compter de cet instant, mon organisation contrôle plus de 60% des réserves d'eau de votre pays. Ce contrat stipule donc que votre nouveau gouvernement nous accordera les contrats de distribution.
C'est le double de ce que l'on paye aujourd'hui.
Ah ben, signez pas, alors. Mais sachez une bonne chose sur moi et les gens avec qui je travaille. Nous faisons affaire avec la gauche, la droite, les dictateurs, les libérateurs. Si l'actuel président avait été plus accommodant, nous n'aurions pas cette discussion. Alors, si vous refusez de signer, vous vous retrouverez avec les couilles dans la bouche sous le regard goguenard de votre successeur enthousiaste. Vous en doutez? Descendez-moi, prenez l'argent et allez dormir sur vos deux oreilles.
Voilà le méchant Mathieu Amalric dans Quantum of Solace. Alors si je vous bassine avec ce problème de l'accès à l'eau, c'est que le film d'Issiar Bolein, Même la pluie, actuellement dans les salles, se déroule pendant les événements qui ont eu lieu en 2000 à Cochabamba, en Bolivie. Pendant 4 mois, entre janvier et avril, des mouvements sociaux de grande ampleur se sont déroulés dans cette ville, la troisième de Bolivie, suite à la privatisation du système municipal de gestion de l'eau et à l'augmentation de son prix. Après des mois de violents affrontements, les habitants ont réussi à se faire entendre, à faire plier le gouvernement et la société américaine impliquée dans l'affaire. Et dans Même la pluie, c'est justement à Cochabamba qu'une équipe de tournage choisit de planter ses caméras au plus fort de la crise. Le réalisateur, Sébastien, campé par Gaël Garcia Bernal, veut faire un film sur l'exploitation des Indiens d'Amérique par les conquistadors. Il veut mettre en valeur l'humanité des soi-disant sauvages colonisés par les Espagnols et glorifier l'engagement d'une poignée de religieux dans la défense des Indiens. Pour mener à bien ce tournage, Sébastien peut compter sur Costa, le producteur du film, un cynique qui a choisi de tourner en Bolivie pour payer des salaires ridicules aux techniciens et aux figurants locaux. Alors au début du film, Sébastien et Costa débarquent à Cochabamba pour recruter quelques habitants du CRU. Ils rencontrent Daniel, un homme vindicatif qui fascine Sébastien et à qui il confie le rôle du leader de la résistance indienne, sans se douter qu'il s'agit également d'un des leaders du mouvement de protestation qui enflamme les rues de la ville. Alors avec le portrait de ces trois personnages, Issiar Bolein réussit la performance de nous proposer deux films en un. Les images tournées par Sébastien et son équipe nous plongent dans un film historique, une reconstitution réaliste de la conquête du Nouveau Monde, et ces images d'un autre temps viennent se mélanger avec le quotidien du tournage. Elles envahissent l'écran par moments, intégrées au montage, la plupart du temps sans être annoncées, et proposent une vision sombre et cruelle de cette exploitation ancestrale de l'homme par l'homme pour de l'or. En une série d'allers-retours entre présent et passé, l'or des conquistadors va se transformer en or bleu des multinationales, et les trois personnages vont devoir traverser l'enfer en faisant chacun des choix qui les transformeront profondément. Sébastien le sensible se noie peu à peu dans son entreprise de reconstitution et perd de vue la réalité, alors que Costa, le cynique, fait le chemin inverse vers une certaine forme de rédemption. Quant à Daniel, il devient l'incarnation de la résistance antique et moderne à l'argent roi et une figure centrale de cette guerre de l'eau tragique et édifiante. Alors Issyar Bolayne, en plus de nous plonger dans un sujet d'actualité brûlant, parvient à faire vivre sa petite histoire dans la grande. Les comédiens sont parfaits, Louis Tosar en tête, dans le rôle émouvant de Costa. La direction artistique parvient aussi bien à nous plonger dans un 16e siècle de cinéma que dans une reconstitution d'émeutes plus récentes. On pense à Herzog et à son Aguirre ou la colère des dieux, mais aussi à des images plus modernes comme celle des émeutes de 1992 à Los Angeles, reconstituées par Ron Shelton dans Dark Blue, et la réalisatrice de faire basculer ce qui aurait pu être un mélo tire-larme en véritable parcours initiatique dans lequel le cinéma n'a pas forcément le beau rôle. Alors la question qui sous-tend même la pluie est la suivante, comment faire un film engagé qui dure dans le temps? Comment se faire l'avocat d'une cause politique, sociale, écologique, sans verser dans la dramatisation à outrance ou l'adoption d'une distance temporelle ou symbolique comme l'exercice de reconstitution? Donc sans sacrifier ni le traitement de son sujet, ni ses personnages et sa fable, Issyar Bolayne réussit à jongler avec ces questions et à nous offrir un très beau film, intemporel dans son message et suffisamment fin pour qu'il évite le manichéisme trop souvent présent dans les films du même genre. Voilà, donc un film que je conseille, et pour finir cette petite présentation de Même la pluie, je vous propose d'écouter à nouveau un extrait de Flow pour l'amour de l'eau d'Irina Salina, un documentaire qui traite du problème de l'accès à l'eau.
Pourquoi la Bolivie a-t-elle privatisé la gestion de l'eau à Cochabamba et El Alto? Ce n'est pas parce que les citoyens ont décidé que c'était une bonne idée. Cette privatisation a été imposée à la Bolivie par la Banque mondiale. En 1997, la Banque mondiale a dit à la Bolivie que si elle ne privatisait pas les services d'eau, on ne lui accorderait plus aucun prêt pour la mise en valeur de ses ressources en eau.
Pour nous, la question de la privatisation est un combat contre la mort. Un combat pour que la vie continue d'être quelque chose dont nos enfants, nos petits-enfants et nous tous, nous puissions profiter. Nous luttons pour une vie digne et joyeuse. Contre une vie de soumission, d'amertume, d'angoisse et d'insécurité. Qui est insupportable.
Voilà donc un extrait de Flow d'Irina Salina, un documentaire sur les problèmes liés à l'eau potable sur la Terre. Il y a plusieurs autres documentaires qui parlent de ce sujet. J'avais cité Un monde sans eau de Udo Maurer, Blue Gold World Water Wars de Sam Bozo. Il y a également L'eau, miroir du monde andin de Luc Bazin. Et tu voulais en ajouter un de plus?
Oui, Vincent. Effectivement. C'est le film Le Bien commun, l'assaut final de Carole Poliquin, qui est un vieux film qui a pas mal tourné, qui reprend non seulement les problèmes de l'eau, mais aussi les problèmes des semences et ainsi de suite. Enfin voilà, tout ce qui devrait normalement appartenir au bien commun de l'humanité, et qui est privatisé.
Voilà, donc si vous n'avez pas vu Même la pluie de Issyar Bolayne, c'est un film que je vous recommande chaudement, un très beau film. Il passe encore au cinéma Diagonal et également à Utopia, donc en version originale sous-titrée. Alors on va passer, on va quitter le cinéma, les films, et parler de films. Donc on va pas quitter le cinéma, on va parler d'un événement, d'un grand événement qui a démarré le 27 janvier dernier, c'est les regards sur le cinéma algérien. J'ai pu rencontrer Jacques Choukroun, donc, qui est vice-président de la programmation sur cet événement, avec plusieurs collaborateurs. Et voilà, je vais vous laisser en sa compagnie. Il va nous parler un petit peu de l'état des lieux du cinéma en Algérie et également un petit peu de quelques événements qui font partie de ses regards sur le cinéma algérien. Jacques Choukroun, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous venez nous parler un petit peu de la 5e édition de Regards sur le cinéma algérien en tant que vice-président de la programmation.
La manifestation Regards sur le cinéma algérien s'est organisée et s'est constituée en association et dont le président est M. Nadir Betache, la trésorière Mme Christiane Reich. Ce sont une association qui regroupe aussi des représentants d'autres associations. M. Nadir Betache est responsable de l'association Identité et Partage, Madame Reich de France-Algérie, il y a des représentants du mouvement contre le racisme, du MRAP, et on m'a confié la tâche de travailler à la programmation de la manifestation, et donc c'est pour ça qu'on m'a donné le titre de vice-président programmation. Voilà.
Cinquième édition de cet événement, de ce panorama un peu sur le cinéma algérien. On sait que depuis les années 90, le cinéma algérien va plutôt assez mal. Il y a très peu de salles qui restent ouvertes en Algérie. Est-ce que vous pouvez faire un état des lieux un peu rapide de cinéma algérien aujourd'hui, dans la production, dans la diffusion ?
Alors, dans la production, il se porte mieux qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire que chaque année, de nouveaux cinéastes apparaissent, de nouveaux films sortent, et en particulier dans le domaine du court-métrage. Il y a encore des cinéastes qui tentent de sortir des longs-métrages en Algérie. Il faut dire qu'ils ne sont pas très nombreux. Disons qu'on sort en moyenne 2 à 3 longs-métrages par an, ce qui est relativement peu par rapport à la période d'avant 1980, mais ce qui est plus que la période où il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, il y a une espèce de redémarrage encore timide du cinéma. Il s'appuie beaucoup sur la télévision pour redémarrer. Quant aux salles de cinéma, il y a un début d'ouverture de salles dans plusieurs villes, de grandes villes de province, comme Sidi Bel Abbès, par exemple, Tlemcen, qui tente d'ouvrir des salles. Enfin, et il y a un programme annoncé par Madame la ministre de la Culture d'ouverture de plusieurs dizaines de salles dans les mois qui viennent en Algérie. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, il y a aussi d'immenses problèmes de formation. Nous avons tenté, ça a été difficile quand même, hein, nous avons tenté de développer un master professionnel de direction de salle de cinéma. Et d'ailleurs, les amis de Diagonale avaient accueilli des stagiaires. C'est des masters où il y a la moitié en cours et la moitié dans des entreprises. Le problème en Algérie, c'est que comme il y a peu de salles, il est difficile de les mettre dans des stages en entreprise, puisqu'il y a peu de salles. Donc c'est un peu compliqué.
On a vu, il y a un certain renouveau un petit peu de la production. Ça repart un petit peu par rapport à il y a 5 ans, vous disiez.
Oui.
Est-ce que c'est toujours difficile de diffuser à l'étranger? Parce que produire des films, d'accord, mais ensuite les diffuser, vous travaillez au sein des Films des Deux Rives, donc une société de distribution. Est-ce qu'il y a un marché pour le cinéma algérien?
Un marché, je ne sais pas si on peut appeler ça un marché. Disons qu'il y a une attente, une curiosité, une bienveillance des animateurs des salles et du spectateur pour le cinéma algérien. Bon, pour toute une série de raisons. De toute façon, les deux pays, la France et l'Algérie, sont liés par des relations extrêmement fortes, que ce soit d'amour ou de haine. De toute façon, la relation franco-algérienne est une relation très spéciale. Et non, je crois qu'il y a une vraie curiosité pour ce cinéma. Moi, je suis assez optimiste de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, enfin, dans notre cas du regard, par exemple, actuellement, on multiplie les séances à Montpellier. Parce qu'au départ, on était à Diagonale et à Utopia. Mais à partir de ces deux cinémas, en fait, il y a maintenant des médiathèques qui ont fait une programmation. Il y a la médiathèque Jean-Jacques Rousseau, puis maintenant la médiathèque William Shakespeare. Ouais. On vient de me dire qu'un lieu qui s'appelle La Chapelle a programmé aussi des films algériens. Donc, sur la région sur Montpellier, là, le nombre de séances est en train de se multiplier de façon considérable, hein, enfin, vraiment importante. D'autre part, sur les villes hors Montpellier, parce que j'insiste beaucoup, parce que la manifestation, c'est pas une manifestation montpelliéraine. À Montpellier, on a tendance un petit peu à se regarder un peu le nombril, je veux dire. Moi, je suis très, très, très content que la manifestation soit à Lunel, à Ganges, à Mende, à Béziers, à Frontignan, à Sète, à Praz-le-Lez, à Perpignan, à Narbonne, etc., etc. Je veux dire, on doit être dans 20 ou 25 localités différentes avec énormément de projections. Donc, si vous voulez, vous voyez, c'est tout le temps en développement. Il y a quand même pas mal de salles qui programment des films algériens. Hein. Je veux dire, on a dépassé les plusieurs dizaines de salles. Et je crois que si on fait le compte, là, on doit dépasser les 100 ou 120 ou 130 salles qui programment des films algériens. La difficulté, c'est de leur donner une certaine visibilité, une certaine ampleur. C'est la discussion, d'ailleurs, que nous avons avec nos amis producteurs du film La Place, la première comédie musicale algérienne. Comment donner de l'ampleur à une sortie de film algérien en évitant de mobiliser des moyens qui seraient au-dessus de nos forces. Donc c'est assez compliqué. On va essayer de voir comment on peut trouver, par les associations, par les amis qui font de la musique, enfin par toute une série de moyens, on va essayer de trouver les spectateurs de La Place. Nous espérons que ce film, qui est une comédie musicale, avec un style assez grand public, tout en posant des véritables problèmes, parce que quand on dit comédie musicale, tout le monde pense qu'on va rigoler, etc. C'est quand même une comédie qui est faite à partir des problèmes de la jeunesse algérienne. C'est pas rose, 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 hein. Donc, on est en train d'essayer d'élaborer une stratégie pour trouver le public qui pourrait voir ce film, et en particulier tous les jeunes d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne qui vivent en France, et qui sont susceptibles de mieux comprendre la difficulté, le mal-être des jeunes, surtout traités comme ça, traités en musique et en danse, on pense que ça peut marcher. Et donc voilà, on fait des efforts de réflexion pour faire crever le plafond au cinéma algérien. Il y a eu d'ailleurs un film qui a eu quand même beaucoup de succès, hein, mais c'était disons un film un peu franco-algérien, c'est Mascarade. Mascarade a eu quand même pas mal de succès. Bon, il y a aussi des films d'Alouache quand même qui rencontrent toujours un large public. Il avait rencontré un grand public avec Babel Wed City. Il avait rencontré aussi un important public avec Salut Cousin. Bon, on peut mettre à part un peu l'immense public qu'il avait trouvé avec Chouchou. Mais bon, il a trouvé aussi quand même un public pas négligeable avec Halaga. Bon, peut-être, naturellement, quand on compare le nombre d'entrées de Halaga à Chouchou, c'est pas du tout la même chose, mais Halaga est un film quand même un peu complexe, un peu difficile, et il y a eu quand même plusieurs milliers de spectateurs, ou plusieurs dizaines de milliers, mais c'est des films qui sont soutenus par la production française, enfin coproduits. Ouais.
Le cinéma algérien, c'est souvent un cinéma social, assez réaliste, ouais, assez proche du quotidien des Algériens. Ouais. Il y a assez peu de films de genre. Au final, il y a peu de films policiers, de films d'horreur, de films d'anticipation, même à petit budget, parce que voilà, il y a des Mexicains qui font des films de science-fiction avec un tout petit budget. Il n'y a pas cette culture du cinéma de genre en Algérie.
La comédie, c'est un genre aussi. Les cinéastes algériens ont été quand même très influencés par le genre comédie italienne, c'est-à-dire comédie avec une base, un substrat social. Le genre comédie musicale, bon, ils sont en train de travailler dessus. Le genre policier, il y a des films policiers, c'est parce que le problème, c'est qu'on les... Alors, il y a eu d'ailleurs l'un des plus célèbres films algériens, c'est une espèce de film policier burgesque qui s'appelle l'inspecteur, dont ce qu'ils appellent les vacances de l'inspecteur Tahar.
رايت بتاع ديك الحكايه اللي حكاها لنا الفرطاس نتاع الديريكتور.
انا احسن ما فهمت يا انسبكتور، عندي شهر راحه في العام حبيت تخدمني فيه.
ايه نوت، ما كاش الراحه في الميتين تاع لابوليس. الو، الوقت اللي تكون الخدمه تخدمي بيسيتو. عاود انا لا فيراتيكا وتعجبتني، يتعين لي وتكاين حلفتيلا.
حبسني هنا انسبكتور.
ليش كنت؟ عاود انا راني حبست.
انت وين تروح تشوف السرقات والاقتلات؟ الناس راهي تحوس، راهي تسمش، راهي تعوم، راهي تلبس، راهي تتزوج، راهي تعرس، راهي تشطح، راهي ترقد، راهي تاكل، راه تاكل يا انسبكتور راه تاكل راه تستمن في الحياه وانت حبيت تخدمني قالك خرج من الحبس طاح في بابو هيا حبس البغلان تاعك هاو تاكل فرطاس نتاع الديريكتور او تكناو تباتسون فاكونس الوغ حنا نتبعو الفاكونس نتاعو واش حب يقول لي فاكونس يعني نخدمو ونجوزو لي فاكونس بيان سور او زانا بانسيت كلش بارك الله فيك انسبكتور
L'inspecteur Taha, enfin, l'inspecteur Taha est le top, l'un des films top du cinéma algérien, mais il n'a pas été très repris. Il a été exporté à un moment, mais il n'est plus repris en distribution. Vous avez eu quand même récemment Kocha Twitta qui a fait Mourir Tué, qui est un film, disons, plutôt noir que policier, qui est basé sur les œuvres de Yasmina Khadra. Donc, si vous voulez, et puis d'autre part, il y a des films qui se préparent. Non, c'est des genres. Le film policier noir, c'est un genre qui pourrait se développer, quoi, hein, qui peut se développer.
Un mot sur les prochains événements à venir, sur les grosses rencontres. Il y a un programme de court-métrage, donc ce sera jeudi, demain, c'est au Diagonale, à 20h.
Alors, il y a deux événements qui suivent. D'abord, il y a la présentation par le réalisateur de La Place, le lundi 14 février à Diagonale. Mais ensuite, je crois que c'est un dimanche, le 20 février, nos amis d'Utopia ont eu la malice ou l'intelligence de programmer le film Si Mohand ou Mohand, qui est donc sur un grand poète berbère. Et nous leur avons proposé, ils ont accepté, qu'il y ait des lectures de poèmes en berbère et en français du poète Si Mohand ou Mohand. Donc, et ça se fera, si j'ai bien compris, le dimanche matin, avec un petit déjeuner. Voilà, ils ont une tradition comme ça, avec, si j'ai bien compris, petit déjeuner, croissant, etc. Là, on aura en plus la poésie. Enfin, j'ai déjà entendu, d'ailleurs, à l'inauguration de la manifestation Regard sur le cinéma algérien, cet ami de l'association Lire des poèmes en berbère. J'ai vu d'ailleurs toute la fierté qu'il y avait dans la salle d'entendre la langue, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent cette langue. Et je me suis dit que tous les gens qui ne comprennent pas le berbère, ou la mazir, pour parler exactement, vont être très contents d'écouter juste après la traduction en français. Parce que ce sont de très beaux poèmes, hein, qui ont été édités par Mouloud Mamri et Mouloud Feraoun. Parce que voilà, je pense aussi que le cinéma algérien doit être accompagné de plus en plus, d'être mis dans une ambiance qui retrouve sa culture, quoi. Et là, par exemple, la culture des berbères, Ramazir, est une culture essentiellement orale. Les poèmes de Sim Hand ne sont pas écrits, ils ont été écrits par la suite, donc c'est une culture orale. Et donc, on va retrouver l'oralité originelle en disant ces poèmes à Utopia.
Merci beaucoup, Jacques Choucroune, et puis bonne continuation.
À bientôt alors, au revoir. Merci.
Voilà, Jacques Choucroune, donc vice-président chargé de la programmation sur Regard sur le cinéma algérien. Juste quelques événements rapidement que je répète. Le programme de court-métrage, c'est demain au Diagonale à 20h. La réalisatrice Yasmine Chouir sera présente pour parler de son film. Également vendredi à la médiathèque Shakespeare à 15h30, Mascarade de Lies Salem. Mascarade, voilà, dont nous avons entendu des petits extraits de la bande originale.
Un très bon film qui était passé il y a 3 ans. On l'avait chroniqué ici dans Cinérama.
Voilà, ça, ce sera vendredi à 15h30 à la médiathèque Shakespeare. Et surtout, donc, La Place de Darman Ouzid, lundi 14 au Diagonale à 20h, en présence du réalisateur, première comédie musicale algérienne, dont Jacques Choucroune nous a parlé dans cet extrait. Pour avoir le programme un peu plus détaillé, c'est sur le site internet www.filmdesderives.com, donc www.filmdesderives.com. Et puis voilà, un numéro de téléphone 06 43 94 07 90.
À noter que Darman Ouzid, d'ailleurs le réalisateur de La Place, avait remporté un prix au Festival du cinéma méditerranéen pour la meilleure musique. Voilà, et c'est par ailleurs quelqu'un de très passionnant. On passe aux événements avec demain le Festival Cinémètre qui présente en collaboration avec la médiathèque Federico Fellini Blague à part, qui est un film documentaire de Vanessa Rousselot. Ce sera en présence de la réalisatrice, donc c'est à la médiathèque Federico Fellini à 18h. À 20h demain, on en a déjà parlé, regard sur le cinéma algérien, ce sera au Diagonale. Ensuite à Agange, toujours demain, le cinéma L'Arc-en-Ciel propose une projection débat autour du film de Jean-Paul Jaud. Severn à 19h30, et non pas Seven, mais Severn. Pour les infos, c'est www.cinemagange.fr. Et puis, gros événement quand même, la 4e semaine de cinéma suisse. La soirée d'ouverture aura lieu ce vendredi au cinéma Le Royal avec le film Julius Verschwinden de Christophe Schaub. Et Jacqueline Veuve sera présente au centre Rabelais lors des projections de Un petit coin de paradis et Journal de Rivesaltes 1941-42. Ce sera les 13 et 14 février à 17h30 pour avoir toute la programmation de cette 4e semaine du cinéma suisse. C'est rare film. Oui, ça, c'est pas facile. Voilà, c'est rarefilm.com. Lundi 14 février à 14h, il y aura Yo-Yo plus Heureux anniversaire de Pierre Etex. C'est une séance dans le cadre de l'université du Tiers-Temps. Et Pierre Etex, on essaiera de faire un sujet. Enfin, je t'ai entendu le dire en tout cas, que tu essaierais de préparer un petit topo sur Pierre
Etex. On en parlera dans cette émission parce qu'il y a la ressortie de tous les films de Pierre Etex après une longue aventure juridique qui a bloqué les droits pendant des années et des années. Donc les films de Pierre Etex vont ressortir entre autres au Diagonale. Ils sont disponibles aussi depuis un petit moment en DVD. On en parlera sans doute dans cette émission.
Et allez, on se dépêche avec le Festival des écrans britanniques. Ça, c'est le festival qui se déroule à Nîmes jusqu'au 13 février. Là, l'adresse internet est beaucoup plus simple, écranbritannique.org. Et puis, à noter qu'il y a un concours de films dans le cadre de la rénovation urbaine. Plusieurs concours sont organisés dans le festival Focus, concours de scénario et concours de films vidéo ou de pocket films, ces petits films que vous faites avec vos téléphones portables. Les candidats doivent être amateurs, les auteurs doivent être âgés de 14 à 30 ans. La date limite d'inscription est le 25 février, c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Contact Festival Focus, www.festivalfocus.eu.
Cinéma Utopia, bon film et pépite.
Bah oui, c'est le film est bien.
C'est comme un supplément de sensations qu'a apporté ce cinéma.
De quoi est-ce qu'il parle ?
Le cinéma m'a appris à aimer la vie.
Divergence FM vous donne le programme du cinéma Utopia.
Programmé au cinéma Utopia du 9 février au 16 février, Angel et Tony, écrit et réalisé par Alix Delaporte, Anne Verrier, le film de Mike Lee, Cheminot, de Luc Joulet et Sébastien Jousse, avec Ken Loach qui fait une apparition dans le film, Des Hommes et des Dieux. Le grand succès de Xavier Beauvois continue de passer à l'Utopia. Incendie, qui est un film québécois, adapté d'une pièce de Wajdi Mouawad, qui est un auteur libanais. Le Magicien d'Oz.
Auteur canadien.
Oui, mais qui vit...
D'origine libanaise.
D'origine libanaise, voilà. Merci de préciser. Le Magicien d'Oz, film de Victor Fleming, ça c'est dans le cadre de Cinécampus. Le Nom des gens, de Michel Leclerc, dont on a vanté la qualité ici. Le Président continue de passer, documentaire de Yves Jolan. Les émotifs anonymes arrivent dans la programmation. Film de Jean-Pierre Améris avec Benoît Poulvord et Isabelle Carré. Même la pluie, dont tu as parlé, passe... aussi à l'Utopia. Le scénario a d'ailleurs été fait par le scénariste de Ken Loach. Voilà. Mystère de Lisbonne, 3h30, voire plus. Film de Raoul Ruiz continue de passer aussi. Pianomania continue. Potiche, film de François Ozon, est toujours programmé. Un balcon sur la mer arrive dans la programmation. Film de Nicole Garcia avec Jean Dujardin et Marie-Josée Croze. Et puis, il y a Une vie de chat, film d'animation à partir de 6 ans. Et voilà, c'est tout pour le programme Utopia. Et ainsi s'achève Cinérama, qui a bien débordé aujourd'hui, mais c'est des choses qui arrivent la semaine prochaine. On se retrouve également le mercredi.
Voilà, moi je ne serai pas là la semaine prochaine, puisque je serai en train de bronzer en sirotant un mojito à Paris-Plage. Donc je vous retrouverai dans 2 semaines, mais je vous laisse au bon soin de Vincent.
Et je crois que j'aurai des interviews, oui, celle de Philippe Leguet notamment, puisque son film Les Femmes du 6e étage sort la semaine prochaine et je l'avais rencontré lors du Cinémètre de Montpellier. On remercie Bruno à la technique et puis on se retrouve la semaine prochaine. comme souvent j'oublie l'extrait final puisqu'on a parlé de Black Swan, dernier film d'Aaron Aronofsky que je vous recommande. On va écouter un tout autre film qui parle aussi de la danse. D'après toi, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai choisi ?
Les rêves dansants sur les pas de Pina Bausch ?
De Pina Bausch, non. Non, c'est un film très très populaire.
Dis-moi.
Dirty Dancing, voilà. Ce sera à la fin du générique.
En attendant, je te vois pas te battre, je te vois pas courir vers ton père pour lui dire que je suis ton mec, c'est ça que tu devrais faire.
Écoute, je te promets de le faire, mais essaie de comprendre, avec lui c'est compliqué.
Je te croirai plus, bébé. T'as jamais eu l'intention de lui annoncer que tu m'aimes.
Cinérama.
Jamais.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner, vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers, alors.
Les pompiers, c'est le 18. Alors, si vous voulez vous renseigner, faites le 12, sans rancune.